Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous y sommes avec une nouvelle émission du mouvement Action Justice. Une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir, les injustices de notre société contemporaine. Dénoncer les abus de pouvoir et les injustices est un devoir de citoyen, voire une obligation. Voilà pourquoi chacun de nous est appelé à dénoncer les abus, quelle que soit leur nature ou leur forme. Vous êtes victime ou témoin. Vous n'avez plus d'excuses de garder le silence. Décrochez votre téléphone et appelez-nous au 514-273-4302. 514-273-4302 ou bien écrivez-nous à info@maj-quebec.com. info@maj-quebec.com. À travers les ondes, votre témoignage, votre expérience, votre participation contribuera à l'éveil collectif, à la prise de conscience, à des centaines, des milliers de personnes qui n'ont pas eu le courage, la volonté, la détermination de le faire. Dénoncer, c'est rappeler en signe d'avertissement que notre société rejette, condamne les abus de pouvoir, les injustices. N'oublie jamais que dénoncer publiquement, c'est ordonner en une seule voix aux abuseurs de cesser définitivement de leur abus de pouvoir. Rejoignez-nous dans ce projet, dans ce combat, dans cette lutte afin de rendre à notre société une image possible, hautement souhaitée par vous, chers citoyens. Avec vous au micro ce matin, Hadj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement en défense des droits de la personne face au système judiciaire. Plus que 400 000 enfants, si ce n'est pas plus, sont privés de vivre avec leur père au Québec. Qui est responsable de cette déchéance sociale? La vie de centaines de milliers de pères au cours de ces 30 dernières années est détruite, selon des spécialistes. Nous assistons à la marche d'une génération en difficulté. Apprentissage, éducation, identité, relations et beaucoup plus. Ces derniers jours, j'accompagne un père de 3 enfants qui fait face devant le tribunal de la Cour supérieure à 11 chefs d'accusation criminelle. Selon son témoignage, la mère l'avait accusé à tort pour le priver de ses enfants, de se débarrasser de lui définitivement. Une histoire qui m'interpelle de temps en temps. Après notre thème musical, chère auditrice, cher auditeur, nous allons revenir à cette histoire qui vous oblige à s'arrêter un moment pour mieux réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les citoyens, pour éviter, pour le moins à nos enfants, un sort pénible à supporter?
Mission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables nous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. La malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. J'avais souligné au début de l'émission qu'il y avait environ 400 000 enfants, si ce n'est pas plus, qui sont privés de vivre avec leur père au Québec. Une étude de spécialistes dans le domaine démontre qu'on a détruit la vie de centaines de milliers de pères au cours de ces 30 dernières années. Une enquête sérieuse avait démontré aussi que l'immense majorité des citoyens ne se retrouvent pas devant le juge. Une décision consensuelle ayant été prise entre les deux parents, le fait que la garde des enfants soit la plupart du temps laissée à la mère. Toujours selon cette étude intitulée « La légende des pères destitués », il y a plusieurs groupes d'hommes au Québec qui pensent, qui défendent la position suivante. Il y a une discrimination systématique envers les hommes devant les tribunaux en ce qui concerne la garde des enfants. Ils ont l'impression que les juges ont développé des valeurs, des croyances autour d'une capacité plus grande des mères à assurer une garde des enfants meilleure. Et malgré que certains pères, dans le biberon, changent la couche, font la vaisselle, se réveillent une nuit, amènent l'enfant chez le médecin ou encore, le statut demeure inchangeable. En cas de séparation, la garde revient systématiquement à la mère. Bref, mon cher monsieur, si vous donnez le sein à votre enfant, ou vous le prenez, plutôt vous le portez 9 mois dans votre ventre, assurez-vous que vous n'auriez pas la garde en cas de séparation. Voilà pourquoi n'essayez pas de s'aventurer, surtout pas. Le terrain est glissant, dangereux, insécurisé. Vous avez intérêt, mon cher monsieur, d'être sage, trop sage, un peu plus que vous l'êtes présentement. Pour les enfants, il y a un prix à payer, un sacrifice, un renoncement à tout. Prêt à négocier à tout moment. Il y a des règles strictes à suivre de soumission. La société moderne veut se rattraper. Elle veut se venger des anciens pères qui ont profité des époques anciennes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous payez pour les autres. Pour un crime peut-être que vous n'avez pas commis. Je me souviens encore donc il y a quelques années, au milieu d'une nuit d'hiver, alors que mon ex me réveillait brusquement pour m'apprendre que notre fils avait de la difficulté à respirer. Effectivement, il était réellement en train de suffoquer, les yeux grands ouverts, et il cherchait en vain de prendre une possible respiration. Alors que je me suis rendu compte que je l'ai entouré dans une couverture. Or, il faisait environ moins de 30 et seulement en se rendant à ma voiture en pyjama que je me suis rendu compte que j'étais pieds nus. En réalité, je ne les sentais plus, mes pieds. Mais l'idée de retourner chercher mes souliers et les mettre est subitement morte à l'écoute de mon fils qui venait de loin prononcer mon nom. « Papa, papa !» Et je l'ai allongé derrière la banquette en arrière et je me suis dirigé à l'hôpital. Le lendemain, de retour de l'hôpital, ma conjointe dormait encore et elle me disait qu'elle était trop épuisée, qu'elle n'a pas pu nous rejoindre à l'hôpital. Enfin, ce geste irréfléchi, involontaire de ma part, cette précipitation à l'extérieur avait, selon le médecin, sauvé mon enfant d'une mort probable. Mon fils avait le cou enflé suite à une importante infection, ou plutôt inflammation virale, intérieure et aussi de l'extérieur. En plus, il avait le symptôme de l'apparition des oreillons. Et justement, en sortant rapidement dans le froid, la partie enflammée qui a cessé, ou plutôt qui a causé un blocage au niveau de la gorge, s'est brusquement rétrécie par le froid pour permettre à l'air de passer. Une gorgée de vie venait d'apaiser mon affolement. Et j'ai compris que j'étais prêt à donner ma vie pour sauver celle de mon fils. Mais plus tard, quand je suis rendu à la cour pour mon divorce, une solution finale, intournable, après 10 ans de souffrance, mon exposé finalement n'a pas pu trouver ou n'a pas pu me servir devant le juge, qui rapidement avait tranché en faveur de la mère. J'avais obtenu le droit de visite une fin de semaine sur deux. Quelques mois après, la mère a voulu me punir à ne plus voir mon fils et elle a réussi son coup. Un appel du 911 et le tour est joué. Il fallait une bataille de 2 ans devant les tribunaux pour convaincre le juge, hors tout doute que la vie de mon fils était menacée s'il demeurait avec sa mère. Mais avant ça, il fallait aussi convaincre le juge de mon innocence vis-à-vis à des fausses accusations portées contre moi par la mère. C'est des périodes très difficiles. Dans mon cas, la mère est à la dernière minute, avait renoncé à sa poursuite. Sinon, j'étais cuit vivant. Les enquêteurs dans le dossier étaient plus que convaincus que j'étais coupable de voies de fait, de menaces de mort, alors que je n'avais jamais levé ma main, et en aucun moment, et je lui avais menacé de quoi que ce soit. Elle savait, elle était sûre et certaine que sa plainte ne tombera pas à l'eau, que tout le monde va s'intéresser à son mensonge et combien d'appui elle avait reçu. Donc la mère de mon fils avait l'autorité suprême de me condamner à n'importe quel moment. Moi, listée d'emporter à ses yeux, c'était encore plus facile. Elle était certaine que personne ne va me croire, que l'appareil judiciaire était à ses côtés, que les policiers l'appuiera dans ses démarches, les travailleurs sociaux vont la conseiller plutôt vivement d'acheminer ses fausses accusations, l'intimide, la menace même en cas où elle se renonce à me poursuivre, qu'ils vont fermer son dossier définitivement, sans jamais le rouvrir une seconde fois. Mais la mère au fond d'elle savait que tout ce qu'elle avait raconté aux enquêteurs, c'était des purs mensonges. Vous comprenez, mon cher monsieur, pourquoi je vous ai dit et je vous ai demandé d'être sage, trop sage. Cette fois, moi j'étais chanceux, mais ce n'est pas tout le monde qui aura cette chance. Je demeure tout à fait conscient que le père ne pourra jamais remplir la fonction réelle de la mère. Et la mère non plus, elle ne pourra jamais remplir celle du père. Et l'enfant est beaucoup mieux avec sa mère en cas de nécessité extrême. Mais il arrive, chère auditrice, cher auditeur, que des enfants sont négligés par la mère. Et la garde du père devient nécessaire, essentielle, indispensable même. La garde plutôt exclusive des enfants accordée à la mère de façon presque automatique en cas de séparation ou de divorce demeure cependant l'enjeu principal des groupes de pères qui réclament haut et fort la présomption de garde partagée par les tribunaux. La discrimination est une injustice de lourdes conséquences. Souvent ici, c'est les enfants qui sont les victimes, les vraies victimes. Nous allons faire une pause musicale avant de revenir à ce procès qui déroule présentement devant la Cour supérieure au Palais de la Justice de Montréal, où un père de 3 enfants est accusé au criminel par son ex-épouse en chef d'accusation. On trouve parmi ces chefs d'accusation agression sexuelle, voies de fait armées, voies de fait graves, voies de fait simples et beaucoup plus. Mais l'étrange en tout ça, qu'il n'y a aucun rapport médical, aucune trace ou marque ou blessure, aucune preuve, sinon les dires de madame et un témoin de famille. Restez à l'écoute, chère auditrice, chers auditeurs, nous allons faire une pause musicale et on revient avec vous dans ce sujet.
Bien sûr, nous eûmes des orages, printemps d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête.
Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Donc il s'agit d'un père de trois enfants qui est venu nous voir à Mouvement Action Justice en 2008. Il confirme que les accusations portées contre lui sont tous des mensonges fabriqués de blocs et de pièces. Son ex voulait le retirer définitivement de son décor. Elle voulait mettre un trait sur son existence. Pour ce faire, c'était simple, très simple. Après un appel du 911, une enquêtrice de la SPVM rentrée dans le dossier et les accusations trouvent leur voie. Accusé au criminel de 11 chefs d'accusation, agression sexuelle. Cette nuit, elle voulait pas, mais elle a insisté. Plutôt, c'est lui qui l'a insisté. Elle disait non, et il disait oui. La procureure de la couronne, posant la question à la mère, vous lui avez dit non combien de fois, madame? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il voulait rien savoir. Voix de fait armée. Le monsieur, soi-disant, l'avait frappé par le combiné d'un téléphone. Voix de fait grave, causant des blessures et lésions corporelles. Pourquoi vous n'êtes pas allé, madame, chez le médecin? Il me l'a interdit. Et les marques, ils sont où? Ils sont guéris et finalement effacés. Voix de fait sur des enfants mineurs. Monsieur, il battait ses enfants. Quelles sont les preuves, madame? Oh, le plus vieux ne veut plus voir son père. Et le père était très agressif avec ses enfants. Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? J'avais peur. À un moment donné, la mère commençait à pleurer et elle disait que ça lui fait mal de parler de tout ça. Et ça lui fait revivre des mauvais souvenirs. Cette fois, les jurés l'ont regardé avec intérêt, avec compensation. Bref, c'est en général le style de questions et les réponses. Mais selon la couronne, les accusations, chères auditrices, chers auditeurs, sont très graves. La plus lignante dans ce dossier avait obtenu son divorce rapidement et la garde des enfants reste à décider suite à ce procès qui se déroule présentement devant la Cour supérieure. Si l'accusé sera désigné coupable, il risque de ne plus voir ses enfants. Depuis 2008, date de la rupture, le père lutte difficilement à garder le droit de visite de ses enfants une heure par semaine dans un centre supervisé. La DPJ, sont intervenus, donc ils pensent que les enfants étaient maltraités par le père. Ils ont aussi rédigé un rapport pour appuyer la mère dans ses démarches. Le père, finalement, est un chef cuisinier, un bon père de famille, selon ses dires. Aucune histoire avec les policiers. L'âge du plus vieux de ses enfants est de 9 ans, le plus jeune est de 4 ans. Un père apparemment affectif, qui aime éperdument ses enfants. Le contact avec ces derniers était toujours chaleureux. Sa relation avec son ex-femme, de son côté, était décrite excellente, avant de se dégringoler d'une vitesse de la lumière. Écoutez, au jour au lendemain, madame ne voulait plus continuer à vivre, monsieur. Et elle voulait mettre fin à tout, sans explication préalable. Une après-midi, alors que le monsieur rentrait chez lui du travail, madame, elle était là, elle attendait pour lui annoncer la nouvelle. « Écoute, je veux te dire quelque chose d'important. » Le monsieur rangeait son sac, cherche ses enfants qui n'étaient pas à la maison. Il demandait « Ils sont où les enfants ?» Madame ne répondait pas. Le monsieur insiste « Mais oui, ma chérie, tu peux me dire tout ce que tu veux. » Il répète inconsciemment « Mais les enfants sont où ? Ils sont chez ma copine. » »« Ta copine ? Mais pourquoi ils sont chez ta copine ?»« Parce que justement, je veux te dire quelque chose d'important, une chose qui nous concerne tous les deux, qui concerne notre vie. » L'homme, cette fois, il s'arrête. Il la regarde, il la fixe. Et la dame lui lance la nouvelle en face. « Je ne veux plus vivre avec toi. » Il ne la comprenait pas. C'était comme elle parlait une autre langue. Le voyant souriant, elle lui répète la phrase « Je ne veux plus vivre avec toi. C'est fini. Je veux que tu prennes tes affaires et tu décolles d'ici. » Cette seconde décharge le ramène à son esprit. Il lui demande « Mais pourquoi ?» Aucune réponse. C'était comme ça. Elle voulait un changement dans sa vie. Je lui avais dit, suite à ses propos, que c'était son droit, son plein droit. Personne ne peut l'obliger de vivre avec qui que ce soit. Il m'a répondu « Et mes enfants ?» Ce n'était pas moi qui a choisi de partir, c'était elle. Écoutez, 10 ans de vie commune, elle a décidé finalement tout rompre. Pour ça, il a peut-être compris. Mais ne plus vivre avec ses enfants, c'était dur à lui faire avaler cette capsule trop amère à son goût. Quand elle lui a annoncé le début de cette destruction, de son anéantissement final, il est devenu fou, furieux. Les conflits n'ont pas tardé à se déclencher entre les deux parents. Il voulait tout faire pour empêcher cette séparation, pour épargner à ses enfants ce coup destructeur, mais tous ses efforts, malheureusement, n'ont parvenu à rien. Écoutez, plus tard, quelques jours, quelques semaines, il a dit « ok ». Sa vie devenait insupportable au point de lâcher prise. « Écoutez, vous pouvez aller et je reste avec mes enfants. »« Pas question, c'est toi qui vas aller. » Et tout de suite, la mère était fâchée et les enfants, dit-il, ils étaient à peu près toute sa vie. Voyant que le père est tombé dans une déchéance sans fin et qu'il réclamait et confirmait que personne ne pourra le priver de ses enfants, la mère est passée à son deuxième plan d'attaque. Elle loge une plainte contre lui au service de la police de Montréal. Arrêté et détenu pour 24 heures, il n'avait plus le droit de mettre les pieds chez lui. Il a pris contact avec ses enfants 6 mois après l'arrestation. Avec 11 chefs d'accusation, ce père est passible au moins de 5 ans de prison ferme s'il sera reconnu coupable dans cette cause. Les accusations de la mère dans ce dossier étaient portées en mars 2008, et depuis 2 ans, le père ne fait que attendre. 2 ans de stress, 2 ans de souffrance interminable, 2 ans de nuit blanche, 2 ans de cauchemar, 2 ans d'injustice, et j'en passe. Je l'ai accompagné le premier jour de son procès. Il n'avait pas l'air du tout d'un habitué du système. Son avocat lui a demandé de se rendre à une salle pour le choix du jury. Mais en arrivant à la salle, celle-ci était pleine à craquer. Donc il y avait au moins 450 candidats pour le poste de juré. Il fallait choisir 12 jurés de tout ce monde présent. Tout ce monde qui était convoqué à travers une liste électorale. Tout ce monde s'était déplacé ce matin du 7 septembre 2010 pour être juré. Tout ce monde-là était convoqué à être présent pour sélectionner 12 jurés. L'accusé qui se trouvait à côté de moi au milieu de la salle me regarda, me fixa, ses yeux s'accrochaient dans les miens, puis il me demanda si tout ce monde-là sont là pour lui, lui seul. Et j'aurais aimé lui dire non. Mais le juge responsable dans ce dossier avait pris la parole. « Chères candidates, chers candidats, excusez-moi, je vais passer, on va passer à une publicité et on va revenir avec vous. »
À Télé-Québec, c'est l'heure du retour au jeu pour Tactique. Nouvelles intrigues, nouveaux personnages et petites frictions sur le terrain. En semaine 18h30 ou midi à Télé-Québec, l'autre télé.
Latinordicos, une émission où l'on fait la rencontre d'activistes, d'écrivains, de poètes et autres artistes venus partager leur soif de la révolution. Dimanche, de 11h à 11h20, avec votre animateur Mauricio Duran. Latinordicos, sur les ondes de Radio Centreville 102,3 FM.
Fondation Fabienne Cola et Global Montreal vous invitent au 6e Festival international du film Black de Montréal du 22 septembre au 3 octobre. Venez découvrir la culture noire des 4 coins du globe à travers les plus grands films Black. 128 films palpitants, 100 premières, 25 pays. Admission, 10$ par film ou passeport de 10 films, 50$ ou encore passeport illimité, 95$. Du 22 septembre au 3 octobre au Cinéma du Parc et à l'ONF. Info et programmation montrealblackfilm.com.
Salsa, reggae, samba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.
Donc j'avais dit, chère auditrice, cher auditeur, que le juge responsable dans ce dossier avait pris la parole en disant « Chère candidate, cher candidat, vous êtes tous convoqués ce matin puisque l'accusé a demandé que son procès sera tenu devant juré. Il a ajouté « C'est son droit et personne ne pourra le priver de son droit. » Puis le juge, après avoir donné quelques consignes, il a demandé à l'accusé de se lever, afin que tous les candidats et candidates le voient. Une question de s'assurer que personne ne connaît l'accusé de près ou de loin. Quand ce père avait repris sa place à côté de moi, ses yeux ont affiché un regard mystérieux, accusateur. Une interrogation inquiétante s'est dessinée dans son regard. Il n'a pas cessé de répéter « Tout ce monde sont venus spécialement pour moi. » Puis il a dit « Mais j'ai absolument rien fait. Je n'ai rien à me reprocher. » Alors que le candidat et les candidates s'interrogeaient sur les frais du restaurant, de l'hôtel, du transport, sur le salaire qu'ils vont gagner en cas d'embauche, je voyais une larme qui logeait dans le coin droit de l'œil de l'accusé. Écoutez, avant de finir cette histoire triste, j'aimerais vous faire entendre mon entrevue avec le directeur général de l'organisme Pères Séparés, Maître Pierre Marquet, un avocat retraité qui a exercé le droit familial pendant 30 ans. Il travaille présentement à cet organisme qui existe depuis presque 12 ans, un organisme socio-affectif dont la mission consiste à sortir les pères séparés de leur isolement. Le slogan de l'organisme est « Demander de l'aide, c'est fort ». Après une pause musicale, mes chers éditeurs, mes chers auditeurs, écoutons Maître Pierre Marquet, directeur général des Pères Séparés.
Une standaise pleure sur sa chaise, le chat pèse son poids d'amour dans le silence, son chagrin danse et les vieux pensent chacun son tour à la cuisine, quelques voisines parle de Chine et d'un retour à Singapour. Une javanaise devient belle-sœur de l'ostendaise. Il y a deux sortes de temps. Il y a le temps qui attend et le temps espère. Il y a deux sortes de gens, il y a les vivants et ceux qui sont en notre ostendaise que rien n'apaise, de chaise en chaise, va sa blessure. Quelques commères, quelques compères, battent le fer de sa brisure. Son capitaine, sous sa bedaine, qui attend et le temps qui espère. Il y a ceux qui sont en notre ostendaise, autant des fraises, devint maîtresse d'un pharmacien, son capitaine mort sous bedaine, joue les baleines, les sous-marins. Pourquoi ma douce, moi, le faux mousse, que le temps pousse, t'écrire de loin, c'est que je t'aime, et tant je t'aime, qu'épreuve marraine d'un pharmacien. Il y a deux sortes de temps, il y a le temps qui attend, et le temps qui espère. Il y a deux sortes de gens, il y a les vivants, et moi je suis en mer.
Monsieur Pierre Marquet, j'aimerais bien, avant de vous poser quelques questions, savoir c'est qui Pierre Marquet.
Alors, je suis un avocat à la retraite qui a fait du droit pendant une trentaine d'années, surtout du droit familial. Et puis, je suis maintenant directeur de Pères séparés depuis le mois de novembre dernier. Je suis directeur général de cet organisme-là. Et Pères séparés offre des services à la population. On est un organisme à but non lucratif. On est un organisme d'entraide. On essaie d'aider les pères qui ont des difficultés lors de la rupture, d'une rupture d'union. On a deux genres de services. On a un volet juridique où on essaie, dans la mesure du possible, d'informer les gens sur leurs droits et tout ça. Et aussi, dans certains cas, il y a des pères qui désirent se représenter seuls à la cour, on leur offre à ce moment-là du soutien technique. Ça, c'est le volet juridique. Parallèlement...
Excusez-moi, juste dans le juridique, est-ce que vous offrez, est-ce que vous avez des avocats qui peuvent présenter des gens?
Non, on n'offre pas de service d'avocat.
Voilà.
Par contre, on réfère, on a un bureau d'avocats de qui on fait affaire, qui rend des bons services à nos membres, et on fait de la référence à ce moment-là.
Mais dans quelle manière vous appuyez les gens qui vont venir demander de l'aide?
Ben, comme je vous l'ai dit, il y a le niveau juridique, on peut leur donner de l'information, qu'ils comprennent bien qu'est-ce qui se passe, parce qu'un bonhomme qui reçoit une procédure de cour, c'est pas trop à quoi s'en tenir, alors oui. À ce moment-là, on peut l'informer, tout ça, sur ses droits, tout ça. Parallèlement à ça, on a un volet socio-affectif parce que les pères qui vivent une situation de crise ont besoin d'être soutenus. Et on a à ce moment-là, on appelle ça un groupe d'appui ici à tous les mercredis soirs, de 7h à 10h, il y a des rencontres. Et les pères autour de la table échangent sur leurs expériences personnelles.
Comme des ateliers? Ou...
Non, c'est plus en termes d'entraide. Ils essaient de s'aider, tout
ça. Au niveau émotionnel, j'imagine?
Oui, au niveau socio-affectif. Et puis, on a aussi un intervenant social qui peut agir au niveau individuel, parce qu'il y a des pères qui vivent ça plus difficilement que d'autres.
Ouais.
Alors, dans ces cas-là, ben, il peut y avoir un suivi avec cet intervenant social-là.
Si vous me permettez, M. Marquet, je vais directement à la question qui me préoccupe. Nous assistons présentement à un procès à la Cour supérieure, justement où une femme accuse son conjoint de plusieurs chefs d'accusation, entre autres agression sexuelle, voie de fait grave, voie de fait armée, voie de fait simple, etc. Donc, l'accusée a trois enfants avec la plaignante, et qui est la mère de ses enfants, tous âgés de moins de 10 ans. Et selon l'accusé, la mère a inventé toute cette histoire pour se débarrasser définitivement de lui. Donc, ce qui appuie le témoignage du père, c'est l'absence de la preuve, comme par exemple rapport médical, marque ou plutôt présence de blessure et tout. Et selon vous, est-ce que vous rencontrez fréquemment des cas semblables?
Ça arrive régulièrement, je ne dirais pas fréquemment, là, mais ça arrive régulièrement qu'on rencontre des dossiers où les pères se font, accusés à tort et sans raison d'actes qu'ils n'ont même pas commis. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont quand même obligés de se défendre face à ces accusations-là. Et ça teinte leur dossier, ça donne une couleur au dossier qui est très mauvaise à suivre. Parce que c'est un processus qui... Les affaires de garde d'enfants, tout ça, c'est des processus à long terme.
Exactement, oui.
Puis quand au début, il y a des trucs de violence ou d'agression sexuelle non fondée, on ne le sait pas. Le juge qui rend une décision, il se fie bien souvent sur des affidavits de la mère, dans laquelle elle énumère certains faits, et là, il prend ça pour acquis que c'est la vérité. Alors, avant que le processus soit mis en marche pour vérifier si c'est la vérité, il s'écoule souvent plusieurs mois. Et là, pendant cette période-là, bien souvent, le papa ne voit pas ses enfants, ou bien il les voit sous surveillance.
Ouais.
C'est avec une tierce personne qui surveille sa présence.
Oui, M. Marquet, si vous me permettez aussi, ça veut dire qu'une fois le père, ou je peux le citer, l'accusé, fait face à des accusations comme ça, donc c'est... Dans quel état, surtout s'il est complètement innocent.
Mais là, il faut faire attention parce qu'il y a deux genres d'accusations qui sont portées. Si c'est des accusations aux criminels, à ce moment-là, c'est le processus judiciaire criminel qui se met en branle.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Mais par contre, dans les dossiers civils, au niveau de la garde des enfants, il peut souvent y avoir des allégations comme ça. Mais ça, on va retrouver ça à travers les procédures.
Oui.
Et bien souvent, ça va affecter, comme je dis, ça va colorer le dossier de violence et tout ça. Puis là, le juge, il y a une décision à rendre très souvent, parce qu'il y a une procédure en droit familial qu'on appelle un jugement intérimaire.
Oui.
C'est dans les questions urgentes, les parties se présentent devant le juge, et le juge, tout ce qu'il a comme preuve, c'est deux affidavits, un signé par madame, un autre signé par monsieur, dans lesquels ces parties-là énumèrent des faits,
oui,
et sont avérés vrais, parce qu'ils sont faits sous serment.
Tout à fait.
Et là, le juge va rendre un jugement à partir des allégations qui sont contenues dans ces affidavits-là.
C'est ça la dangerosité aussi.
C'est très dangereux, oui, effectivement. Et puis, c'est que ça vient, comme je vous dis, dès le départ, si le juge reconnaît qu'il y a eu de la violence et tout ça, ben ça va être très difficile après ça de faire disparaître ces allégations-là.
Même si dans des cas où il y a des oui-dire.
Ah! Écoutez, il y a des gens qui se parjurent, hein? C'est pas nouveau. S'il y a un endroit au monde où ils se comptent des mensonges, c'est bien dans les palais de justice. Moi, j'ai vécu ça toute ma carrière.
Oui.
Alors, c'est pas la vérité, c'est pas n'importe la justice.
M. Marquet, selon vous, de façon générale, pensez-vous que la justice québécoise a plus tendance à croire l'homme, plutôt que la femme?
Surtout quand
il s'agit de l'avenir des enfants. Je pense, moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu les enfants. Hein.
C'est difficile à admettre, mais je crois qu'effectivement, il y a une tendance à plus croire les mères que les pères. Parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi le phénomène qui fait qu'on arrive à ce résultat-là, mais c'est quelque chose que j'ai constaté à plusieurs reprises, comme je vous dis, il y a moi-même fait du droit familial durant plusieurs années.
Ouais. Et pour vous, M. Marquet, pouvez-vous nous dire quel est le taux de pères qui font appel à vous afin de leur appuyer dans les démarches, si vous voulez?
Vous voulez dire au niveau de l'organisme père séparé?
Oui.
Ben écoutez, à pères séparés, disons, pour la dernière année, là, on a à peu près 200 nouveaux membres. Alors régulièrement ici, il y a des dizaines de pères qui circulent ici toutes les semaines. On les reçoit, on fait des entrevues avec et tout ça.
Oui. Et j'ai aussi une autre question aussi qui m'inquiète. Les femmes sont plutôt rassurées que leurs plaintes soient acceptées à tout moment. Par contre, les hommes ne sont moins rassurés. Puisque selon mon expérience, la sécurité publique il lui arrive souvent de rejeter les plaintes d'hommes à l'endroit de leur conjointe. Autrement dit, il est facile à une femme de voir sa plainte aboutir qu'à un homme. Êtes-vous d'accord selon pour vous?
C'est très vrai. Pour la région de Montréal, je ne peux pas parler pour la hauteur du Québec, mais pour la région de Montréal, quand une femme fait le 911, okay, les policiers arrivent à la maison. Et il existe une directive du service de la police de tout de suite mettre le père en arrestation.
Ah, c'est ça.
Comprenez-vous? Et puis porter les accusations contre le père.
Et même le détenu, même.
Même le détenu.
Ouais.
Très souvent, le père veut porter plainte, lui. OK? Disons, il peut lui aussi avoir été agressé.
Ça peut être lui qui est accusé
puis,
à la place.
Puis bien souvent, ils ne prennent pas au sérieux, ouais. Puis ils ne déposent pas les plaintes contre le père.
Avez-vous une raison pour ça, maître?
Bien là, il y a cette fameuse directive-là qui semblerait exister là, au niveau là, de la ville de Montréal, que les policiers doivent en premier lieu arrêter le père.
Oui. C'est étrange. Hein? Donc maintenant, voulez-vous, M. Marquet, nous citer un cas qui vous a marqué au cours de votre engagement dans cet organisme?
Familial, j'ai toujours été attiré par ces conflits-là. J'ai toujours surtout, moi, ma spécialité, c'était les questions de garde d'enfants.
Oui.
Puis c'est toujours dans ces dossiers-là qu'il y a le plus de disputes entre les parents. Et c'est ce qui m'a attiré vers cette pratique-là. Puis ici, ben, comme je vous dis, je suis à la retraite avec l'expérience que j'ai pu ramasser durant les nombreuses années que j'ai pratiqué le droit, ben, je mets ça à la disposition des pères, j'essaie de les aider dans la mesure de mes moyens.
Mais est-ce qu'y a-t-il, vous m'avez pas répondu encore, est-ce qu'il y a un cas particulier au cours de toute cette durée vous a marqué, un cas d'un père ou d'un...
Écoutez, je vous dirais qu'il y a des cas qui m'ont marqué.
Plusieurs. Voulez-vous nous donner un exemple? Sans citer le nom, rien.
J'étais au tout début de ma pratique, il y a une trentaine d'années de ça quasiment. J'ai un monsieur qui arrive à mon bureau, à peu près 5 pieds, et il me dit, je veux avoir le divorce parce que ma femme me bat. Il était battu par sa femme, tu sais. Et j'ai vu un autre cas dernièrement ici, un joueur de rugby, costaud, sa femme l'avait battu, il était plein de marques sur le corps. Je l'ai vu, j'ai constaté ça de mes yeux.
Mais est-ce qu'il a déposé une plainte contre
lui? Il est allé à la police, il a déposé une plainte, mais ils l'ont pas pris au sérieux. Voyons donc, un gros monsieur contre une petite madame, c'est pas possible.
Donc on a un problème sérieux là.
Ah oui. Non, c'est un sérieux problème.
Oui, M. Marquet, avez-vous un ajout?
Mais sur ce que j'ai mentionné tantôt, les fameux affidavits qui sont des déclarations assermentées.
Ils sont rédigés par qui, c'est ça?
En principe, c'est supposé être rédigé au jeu par la personne qui le signe,
oui.
Mais ces personnes-là sont aidées par leur procureur. Et moi, j'ai vécu souvent, dans les dernières années, des cas où des avocats, des avocates...
C'est plutôt féminin, vous dites.
Oui, qui défendent des femmes, qui ont un parti pris, et puis qui...
C'est eux qui rédigent la manière ou quoi?
Ce sont elles qui finissent par rédiger le contenu de l'affidavit. Et très souvent, il y a des mensonges dans ces affidavits.
On parle des accusations, là?
Non, mais il y a des mensonges là-dedans. Je l'ai vécu dans des dossiers, comme je vous dis, où à un moment donné, on finit par faire la preuve complète de tout ce qui s'est passé. Puis on s'aperçoit que ce qui a été mentionné dans l'affidavit au début est faux. Alors, c'est qui a rédigé ça? Hein? C'est supposé d'être le client, mais c'est le client avec l'avocat.
Mais c'est légal, là.
C'est-à-dire, c'est légal. C'est la pratique courante.
Okay. Et voulez-vous nous dire quelque chose sur la discrimination, là?
Je la vois surtout, comme je vous dis, au niveau criminel. C'est surtout à ce niveau-là que ça se passe, la discrimination.
Hommes et femmes,
Les femmes qui peuvent accuser leur mari de n'importe quoi, tandis que le père qui se présente au poste de police pour accuser sa conjointe de voies de fait, on rit de lui pratiquement.
Et depuis 10 ans, est-ce qu'il y a une amélioration ou ça devient de plus
non,
en plus pire?
Non, c'est toujours pareil. Ça ne s'est pas amélioré, c'est pas pire. Ça ne s'est pas amélioré non plus.
C'est sur la même ligne, oui.
Ouais.
Finalement, peut-être voulez-vous passer un message à nos citoyens?
C'est de faire bien attention. Moi, j'aime ça, non.
Un conseil peut-être?
Oui, mais c'est ça, c'est parce que j'ai tellement de choses que je pourrais dire. Là. Donner un conseil. Ne vous fiez pas toujours à ce que votre avocat vous fait signer ou vous dit.
Ouais.
Allez, essayez d'aller plus loin. Parce que malheureusement, c'est pas toujours la vérité. Là, je vais me faire taper dessus par mes ex-confrères, mais...
Merci, M. Pierre Marquet, pour votre témoignage d'aujourd'hui.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps. Jusqu'à demain. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, j'arrive, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà, et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. Chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train, pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, j'arrive, que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, j'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. Thank you.
Rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc, l'accusé en question dans ce dossier, il est en ce moment en plein procès. Donc, son procès qui est frappé par une ordonnance de non-publication terminera possiblement vendredi prochain. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous donner la suite de cette histoire. De tout ça et d'autres, je voulais attirer l'attention des parents de réfléchir deux fois, et principalement les mères qui profitent de la défaillance de notre système pour détruire la cellule familiale. Le mensonge ne vous ramène nulle part. L'injustice est grave et de conséquence, essayez d'être juste envers votre famille pour être juste envers vous-même. Et voilà, donc malheureusement c'est tout le temps qu'on dispose pour cette émission et nous espérons revenir à ce sujet une autre fois. Donc je compte sur vous de vous nous appeler si vous souhaitez participer à ce débat sur les ondes. Appelez-nous au 514-273-4302. Je répète toujours 514-273-4302. Et je remercie Maître Pierre Marquet pour son témoignage et son accueil. Merci à Madame Marion Longuet, technicien de son. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'être toujours à l'écoute. Sans oublier, bien sûr, Radio Centre-Ville 102.3 FM, de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. Et à lundi prochain.
Et la sous-préfecture fête la sous-préfète. Sous le lustre à facettes, il pleut des orangeades et des champagnes tièdes. Et les propos glacés des femelles maussades de fonctionnarisés. Je suis un soir d'été. Aux fenêtres ouvertes, les dîneurs familiaux repoussent leurs assiettes et disent qu'il fait chaud. Les hommes lancent des rots de chevaliers de don. Les nappes tombent en miettes par-dessus les balcons. Je suis un soir d'été.
Et si c'était votre enfant? Et si c'était votre fille? Et si c'était votre mère? Et si vous êtes victime d'abus sexuels, appelez-nous. On peut vous aider.
514-274-8117. 274-8117.
Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et pourquoi? La réponse à l'émission L'Histoire jugera. Tous les mardis matins, à 8h.
Pour se réveiller avec l'actualité culturelle et sociale de Montréal,
il y a la matinale tous les vendredis entre 6h et 8h.
Et c'est animé par Adèle Bello
et Clément Baudet.
On vous réveille tous les vendredis sur Radio Centre-Ville.
Matrix, une émission féministe et progressiste par et pour les femmes. Actualité, entrevues, musique, culture, annonces communautaires et plus. Tous les samedis matins à 10h30 jusqu'à 11h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même éducation sociale. Les Montréalais et Montréalaises de toute origine échangent sur Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville.